parle aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du mercredi 7 août 2024. Au Nigeria, au moins 21 personnes ont été tuées lors de manifestations contre la vie chère. L'armée américaine a fait savoir que la prochaine étape au Niger sera d'écouter les besoins de Niamey pour une nouvelle relation sécuritaire. En RDC, le président Félix Tshisekedi accuse son prédécesseur Joseph Kabila de préparer une insurrection. L'OMS convoque une réunion du comité d'urgence face à l'épidémie de Mpox ou variole du singe en cours dans plusieurs pays africains. La police britannique sur le qui-vive face au risque de nouvelles émeutes.
Des actions comme ça, c'est comme un soupape. Et là où il y a une certaine frustration qui a duré, perduré, donc moi je ne crois pas que c'est une action spontanée.
Kovin Narsingen, juriste et président de la diaspora mauricienne dans le Royaume-Uni, nous en dira davantage dans la partie magazine. Ne manquez pas notre page, notre journal des Jeux Olympiques. On commence par le journal. Au Nigeria, au moins 21 personnes ont été tuées lors des manifestations contre la vie chère, selon Amnesty International. Un précédent bilan de l'ONG la semaine dernière faisait état d'au moins 13 morts. Alexandrine Oloyon.
7 autres personnes ont été tuées à Kano et une autre à Zaré, deux villes du nord du pays, selon Issa Sanoussi, le directeur d'Amnesty International au Nigeria. L'ONG a condamné l'utilisation de balles réelles et demandé que des enquêtes soient menées sur le comportement des forces de l'ordre. La police et l'armée ont nié toute responsabilité. Les manifestations qui ont débuté jeudi dernier, réunissant des milliers de personnes à travers le pays, ont été réprimées par la police, qui a fait usage de gaz lacrymogène et tiré en l'air. Le Nigeria traverse une grave crise économique à la suite de réformes mises en place par le président Bola Ahmed Tinubu, arrivé au pouvoir en mai 2023. L'inflation des denrées alimentaires dépasse les 40% et le prix de l'essence a triplé. Les manifestants demandent au président de revenir sur certaines réformes, comme la suspension de la subvention sur les carburants, et de mettre fin à la souffrance et à la faim.
Les États-Unis ont encore des objectifs sécuritaires communs avec le Niger, a déclaré le général Kenneth Heckman, directeur de la stratégie du commandement militaire américain pour l'Afrique. Lundi, l'armée américaine a fermé sa base de drones à Agadez, achevant le retrait de ses soldats exigés par les militaires au pouvoir au Niger. Nathalie Barge.
Dans un entretien à l'AFP, le général Kenneth Heckman a déclaré que la prochaine étape sera d'écouter les besoins du Niger pour une nouvelle relation sécuritaire. Estimant que l'armée américaine a entièrement respecté la souveraineté du Niger, il a précisé que les conditions de Niamey étaient de ne pas parler de future collaboration tant que le retrait n'était pas terminé. Les États-Unis comptaient un millier de soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste au Niger, répartis entre une base à Niamey, rétrocédée en juillet, et une autre à Agadez qui permettait aux drones et aéronefs de mener des missions de surveillance dans la région depuis 2019. Une dizaine d'éléments américains sont encore dans la capitale nigérienne pour coordonner le retrait du matériel militaire par voie terrestre. Monsieur Heckman a expliqué que les Américains veulent avoir des relations sur les questions sécuritaires avec chaque pays en Afrique, mais tout dépend des intérêts partagés et de la volonté des partenaires, a-t-il souligné. Il a ajouté qu'il s'agit de dialoguer avec eux pour comprendre leurs besoins. Le général a cité le Tchad qui, selon lui, semble prêt à discuter sur la sécurité au Sahel. Le mois dernier, il avait affirmé que les États-Unis souhaitaient travailler avec les forces ivoiriennes, évoquant le nord du pays, frontalier du Burkina Faso et du Mali.
L'ex-président de la Centrafrique, François Bozizé, chef de la principale coalition rebelle du pays exilé en Guinée-Bissau, a limogé Ali Darassa Mahamat, son chef d'état-major. L'ancien président évoque plusieurs motifs, dont une indiscipline notoire, l'insoumission à l'instance politique de la coalition et des conduites et actions opposées aux objectifs de la coalition. Cette décision intervient un jour après qu'Ali Darassa, qui dirigeait jusqu'alors le plus puissant groupe armé, rebelle en Centrafrique, a annoncé dans un communiqué mettre fin à toutes les hostilités sur l'étendue du territoire et réaffirmer son ouverture à tous les pourparlers avec le gouvernement centrafricain visant à ramener la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Le président congolais Félix Tshisekedi a accusé son prédécesseur Joseph Kabila de préparer une insurrection et d'appartenir à un mouvement armé rebelle lors d'une interview diffusée la nuit dernière. Rosine Monizero.
Joseph Kabila prépare une insurrection, a déclaré M. Félix Tshisekedi, qui a accusé son prédécesseur de coordonner et d'appartenir à l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire incluant la rébellion du M23. L'AFCC, lui, a assuré M. Tshisekedi sans donner plus de précisions lors de cette interview accordée à la radio congolaise Top Congo en Belgique, où il séjourne pour des soins médicaux. En janvier 2019, M. Kabila a cédé le pouvoir à Félix Tshisekedi. Après 2 ans d'une co-gestion conflictuelle du pays, le président Tshisekedi a déclaré la rupture avec le clan politique de M. Kabila, dont il avait renversé la majorité au Parlement. Depuis, l'ancien président est resté très discret, sans jamais prendre position sur la marche du pays. Plusieurs membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie de Joseph Kabila ont rejoint l'AFC et attendent le verdict d'une cour militaire à Kinshasa, où ils risquent la peine de mort.
Le comité d'urgence de l'OMS sur le Mpox se réunira dès que possible pour évaluer s'il faut décréter le plus haut degré d'alerte face à l'épidémie en cours dans plusieurs pays africains, a annoncé le patron de l'organisation ce mercredi, Mamadou Mfa.
Compte tenu de la propagation du Mpox en dehors de la RDC et de la possibilité d'une nouvelle propagation internationale à l'intérieur et en dehors de l'Afrique, j'ai décidé de convoquer un comité d'urgence afin qu'il me conseille sur la question de savoir si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le comité se réunira dès que possible, a-t-il ajouté, lors d'une conférence de presse. Cette qualification est la plus haute alerte que l'OMS peut déclencher et c'est le chef de l'OMS qui peut la lancer sur les conseils du comité. Une nouvelle souche du Mpox détectée en RDC en septembre 2023 et baptisée Clade IB, puis signalée dans plusieurs pays voisins, fait craindre une propagation de ce virus. En RDC, au 3 août, l'Agence de santé de l'Union africaine, Africa CDC, a dénombré plus de 14 000 cas confirmés et suspects et 455 morts.
Un camp en Afrique du Sud où ont été arrêtés fin juillet, 95 Libyens a été déclaré illégal au motif qu'il dispensait un entraînement de type militaire à des personnes venant d'un pays en conflit, a indiqué ce mercredi l'organe de régulation du secteur de la sécurité privée en Afrique du Sud. Les Libyens ont été arrêtés par la police le 26 juillet dans la province de Mpumalanga, proche du Mozambique, dans une ferme apparemment utilisée comme camp militaire clandestin. Ils étaient arrivés en Afrique du Sud en avril, selon les autorités, et ont affirmé venir suivre une formation d'agents de sécurité.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La vice-présidente américaine Kamala Harris, accompagnée par son tout nouveau colistier Tim Walz, se rend ce mercredi dans 2 États clés du Midwest dans le cadre d'une tournée de plusieurs jours visant à inscrire le bon élan de sa campagne dans la durée. Le duo formant depuis mardi le ticket démocrate tient 2 autres meetings de campagne en tandem ce mercredi, d'abord dans le Wisconsin, puis à Detroit, dans le Michigan, dans la soirée. De son côté, le candidat républicain Donald Trump ne prévoit aucun meeting de campagne cette semaine, envoyant plutôt son propre colistier, le sénateur J.D. Vance, dans les mêmes États que le duo démocrate. L'ancien président s'est dit ce mercredi ravi du choix de Tim Walz comme colistier démocrate. C'est un ticket qui voudrait que ce pays devienne communiste immédiatement, a-t-il affirmé sur Fox News. L'armée russe a annoncé ce mercredi la poursuite des combats dans la région de Koursk, frontalière de l'Ukraine, théâtre depuis la veille d'une incursion de troupes ukrainiennes qui a entraîné l'évacuation de milliers de personnes des 2 côtés de la frontière. Selon Moscou, les forces ukrainiennes ont pénétré mardi dans cette région avec jusqu'à 1 millier de soldats et des dizaines de chars et blindés. Kiev a jusqu'à présent gardé en grande partie le silence sur cette opération. Et puis le nouveau chef de la police bangladaise, Manul Islam, a promis ce mercredi une enquête impartiale sur les manifestations meurtrières depuis début juillet au Bangladesh et présenté ses excuses pour la conduite des policiers. Le chef de l'armée bangladaise a annoncé qu'un nouveau gouvernement intérimaire pourrait prêter serment au Bangladesh dès jeudi soir après le retour dans son pays du lauréat du prix Nobel de la paix, Mohamed Yunus. Voilà pour le journal. Vous suivez le VOA Afrique. À présent, le journal des Jeux Olympiques avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal des Jeux Olympiques Paris 2024. Hugues Fabrice Zango s'est qualifié pour la finale du triple saut. Le Burkinabé, champion du monde en titre et recordman de la discipline en salle, a assuré sa place en finale en réalisant un bond de 17,16 m lors des qualifications. Hugues Fabrice Zango avait décroché la médaille de bronze lors des JO de Tokyo, la première médaille olympique de son pays. Et puis on en parlait hier, malheureusement pas de finale de 110 mètres haies. Pour Louis-François Mendy, en demi-finale, le coureur sénégalais a réalisé une performance de 13 secondes 34, finissant troisième de sa série. Seuls les deux premiers de chaque série se sont qualifiés pour la finale. Toujours ce soir, en basketball féminin, le défi est immense pour le Nigeria qui fait face aux États-Unis, septuple tenant du titre. Les D-Tigers ou les Américaines vont affronter en demi-finale les Australiennes qui ont vengé leur équipe masculine en écrasant les Serbes 85-67 au lendemain de l'élimination des Boomers par les partenaires de Nikola Jokic. Un peu plus tôt, les Belges, championnes d'Europe en titre, ont dominé les Espagnols 79-66, se hissant dans les derniers carrés olympiques pour la première fois de leur histoire. Les Belgian Cats vont affronter vendredi pour une place en finale le vainqueur du quart de finale entre la France et l'Allemagne. En boxe, l'Algérienne Iman Khelif, qui s'est retrouvée malgré elle au cœur d'une controverse sur le genre, s'est qualifiée pour la finale du tournoi des moins de 66 kilos. L'Algérienne de 25 ans a battu en demi-finale la Thaïlandaise Jean-Jaëm Sunawapeng au point à l'unanimité des juges. Elle affrontera vendredi en finale la Chinoise Yang Liu. D'où vient toute cette polémique concernant le genre de l'Algérienne et la boxeuse taïwanaise Li Liuting? Élément des réponses avec Abdourahman Dia.
L'entraîneur de boxe Mohamed Chawa montre une photo de la jeune Iman Khelif. Il soutient que la boxeuse algérienne a travaillé dur pour arriver à ce niveau. La tempête qui l'entoure a éclaté après que son adversaire italienne, Angela Carini, s'est retirée de leur combat en huitième de finale après 46 secondes durant lesquelles elle a subi une avalanche de coups de poing. Chawa affirme qu'Iman a ressenti l'impact de la controverse.
Iman se connaît, mais il y a des questions dans sa tête et elle se demande pourquoi moi. Elle a été très touchée par cela, elle a finalement été entraînée dans cette campagne, mais elle leur a donné une leçon d'éthique et de sport.
Lundi, la Fédération internationale de boxe a déclaré que Khelif et la boxeuse taïwanaise Lin Yuting ont été disqualifiés des championnats du monde de 2023 après qu'un test des chromosomes sexuels les a déclarés inéligibles. Le Comité international olympique qui a autorisé les deux pugilistes à combattre au JO affirme que les tests génétiques imposés à Khelif et Lin n'ont pas suivi la procédure régulière.
We have two boxers who are born as women.
Nous avons deux boxeuses qui sont nées en tant que femmes, qui ont été élevées en tant que femmes.
A passport as a woman and who have competed for many years as women.
Qui ont un passeport en tant que femme et qui ont concouru pendant de nombreuses années en tant que femme. Et c'est la définition claire d'une femme. Il n'y a jamais eu aucun doute sur le fait qu'elles étaient des femmes.
Le CIO affirme que l'IBA est une organisation discréditée, embourbée dans l'opacité financière et compromise par des liens avec les dirigeants russes. L'IBA maintient qu'elle a agi pour protéger les boxeuses. Minky Worden de Human Rights Watch estime triste de voir cette question devenir un sujet d'actualité à Paris.
Pendant de nombreuses décennies, les femmes et les athlètes en particulier ont fait l'objet d'un examen minutieux. Et je pense que nous avons vu les abus en ligne, y compris par des acteurs étatiques de ces femmes qui essaient simplement de concourir pour leur pays. C'est choquant et sans précédent.
L'Algérienne est victime de certains messages haineux sur les réseaux sociaux. Une autre responsable du CIO, Christy Bourrouge, a déposé plainte pour cyberharcèlement et une enquête a été ouverte selon le parquet de Paris. En attendant, sur le ring, Iman continue de performer, se qualifiant pour la finale de sa catégorie prévue vendredi face à la Chinoise Yang Liu.
Merci Abdou. Voilà, c'est tout pour ce journal des JO de ce mercredi 7 août.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Ici aux États-Unis, le ticket démocrate pour l'élection présidentielle est connu. La candidate Kamala Harris a désigné son colistier mardi, mais elle n'était pas la seule à faire parler d'elle à Philadelphie, dans l'état de Pennsylvanie. Caroline Pressotti, correspondante de la VOA, était sur place. Son reportage est relaté par Lionel Deima.
Dans la ville où les pères fondateurs ont signé la déclaration d'indépendance des États-Unis, Philadelphie a été un symbole mardi pour les partis démocrates et républicains. Pour la première fois, la candidate démocrate Kamala Harris a présenté son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Kamala Harris, vice-présidente.
Tim et moi avons un message pour Trump et les autres qui veulent revenir sur nos libertés fondamentales. Nous ne reviendrons pas en arrière.
Ancien membre de la garde nationale, devenu professeur de lycée, entraîneur de football et politicien, Tim Walz a enlevé les gants pour attaquer directement le ticket républicain. Tim Walz, candidat démocrate à la vice-présidente.
C'est juste une observation que j'ai faite. Il faut que je le dise. Vous savez, vous le ressentez. Les types sont effrayants, tout simplement bizarres. C'est ce que vous voyez.
Certains démocrates disent que Walz ramènera les électeurs indécis dans les États pivots. Dans l'indice, électeur de Harris.
Je pense que c'est un noyau démocratique que la campagne Harris devra gagner. Et je pense que Tim Walz parle vraiment à ses électeurs.
Quelques heures auparavant, de l'autre côté de la ville. Le candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance, a tenu son propre meeting avec une particularité. Il a répondu aux questions des médias et avec quelques mots acerbes pour Tim Walz.
Le bilan de Tim Walz est une blague. Il a été l'un des radicaux les plus à gauche de tout le gouvernement des États-Unis, à tous les niveaux.
J.D. Vance a attaqué les démocrates sur l'immigration, le fentanyl et l'économie, qualifiant la chute des marchés boursiers de crash de Kamala. Wayne Eastman, électeur indécis, a porté le mémorandum de Vance alors qu'il faisait la queue pour assister au rassemblement.
C'est inhabituel d'avoir un homme politique qui soit aussi écrivain, alors je suis curieux.
Dans 90 jours, les électeurs américains choisiront entre un ancien président et une actuelle vice-présidente. Mais l'équipe de Harris entonne un comme un champ de guerre pour empêcher un retour de Trump à la Maison-Blanche. À partir de la Pennsylvanie, l'équipe Harris-Walz se rendra dans 5 autres États clés au cours des 5 prochains jours. Wisconsin, Michigan, Caroline du Nord, Arizona et au Nevada. La course est bel et bien lancée et nous saurons le 5 novembre qui franchira la ligne d'arrivée à la Maison-Blanche.
Depuis plus d'une semaine, le Royaume-Uni est confronté à des scènes de violence raciste en réaction au meurtre de 3 fillettes lors d'une attaque au couteau dans un cours de danse à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Le gouvernement multiplie les mises en garde face à de nouveaux appels à manifester venant de l'extrême droite qui font craindre des violences. Eric Manirakiza a joint à Londres Kovi Narsingen, juriste et président du Maurice Global Diaspora.
Ça n'arrête pas de s'envenimer, surtout que ça a commencé dans le nord de l'Angleterre et ça atteint beaucoup des autres villes en Angleterre. Et là, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a expériencé cette même violence, cette même acte d'intimidation, de violence. Et dans le centre de Londres, si vous voulez. Tout à l'heure, j'ai vu une sorte de vidéo, là où il y a des gens avec des motocyclettes et aussi des quadrupèdes qui sont en train de mettre le feu dans la rue et bloquer la circulation.
Est-ce que c'est un mouvement spontané ou c'est un mouvement qui est organisé et qui a profité de ce qui s'est passé?
Des actions comme ça, c'est comme un soupape. Et là où il y a une certaine frustration qui a duré, perduré, donc moi je ne crois pas que c'est une action spontanée, mais comme vous voyez, même en France, ça a été le cas pour c'était bien se manifester contre les immigrants, Mais en même temps, si vous voyez, aujourd'hui, en Angleterre, la façon que ça a débuté, je ne pense pas que c'est une action spontanée, mais c'est aussi une action, pour moi, qui a duré dû aux frustrations des immigrants et tout.
Est-ce que c'est une situation qui inquiète les migrants ou c'est une situation, disons, qui va passer?
Écoutez, certainement, ça va inquiéter les immigrants en Angleterre parce que c'est une motivation raciste. Et quand vous parlez de motivation raciste, et certainement, les immigrants vont être inquiétés. Mais j'espère que ça va se calmer, que le gouvernement va mettre de l'ordre dans ce sens-là. Et pour les Anglais qui comprennent qu'il faut avoir de la paix, et dans le pays, et pour moi, c'est pas une surprise. Donc avec des gens comme Nigel Farage, ça va... j'espère que ça va se calmer, quoi.
Kofi Narsingen, juriste et président du Maurice Global Diaspora.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Depuis l'accord de paix entre les communautés Peul et Dogon dans le cercle de Koro, au Mali, des signes encourageant de retour à la coexistence pacifique sont observables dans cette localité de la région de Bandiagara. La réouverture des marchés et des routes, le retour de certaines populations dans leurs villages d'origine ainsi que la libre circulation des personnes et des biens témoignent de ces progrès. Ces avancées ont été rendues possibles grâce à une médiation locale efficace. De Koro, la correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Frontalier avec le Burkina Faso, le cercle de Koro a été longtemps un foyer de violence entre communautés Peul et Dogon. Attaque des villages et hameaux, certaines images prouvent à suffisance l'ampleur de la violence, comme ici dans ces hameaux où la population a fui les exactions.
Pendant la crise, il était difficile de faire paître le bétail en raison des attaques et nous avons également perdu des animaux ainsi que des connaissances durant cette crise.
Face aux attaques persistantes dans la région qui ont causé de nombreux décès et des déplacements, des volontaires se sont mobilisés pour trouver des solutions. Après plusieurs mois de rencontres entre les communautés sous l'égide de l'association Monobim, les différentes parties ont accepté de cesser les faits.
L'idée de négocier est venue de l'association Monobedo. Nous avons bénéficié du soutien des groupes d'autodéfense et nous avons accepté de déposer les armes. Grâce à la volonté de tous, nous sommes parvenus à cet accord. Nous avons vu des bienfaits de cet accord et je demande aux autres de s'inspirer de l'exemple de Koro.
Une situation qui favorise la libre circulation des personnes et de leurs biens, la réouverture de certaines foires hebdomadaires et le retour de certains déplacés.
Avec le maire, nous sommes en train de travailler pour faciliter le retour de certains déplacés qui sont à Sévaré. Je sollicite l'accompagnement des autorités pour réhabiliter nos maisons et nos points d'eau.
Sous les hangars en train de confectionner des nattes traditionnelles, cette déplacée d'Ombori se sent heureuse à Koro malgré ses conditions de vie difficiles.
C'est dur pour moi ici. Mais je préfère rester. Je sollicite de l'aide pour atténuer ma souffrance.
Après la signature de l'accord de paix, un comité de suivi a été mis en place pour suivre les engagements des différentes parties. Tidiani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
L'intelligence artificielle s'impose rapidement dans divers secteurs, au Ghana, notamment dans le domaine de la santé, où de jeunes innovateurs utilisent l'intelligence artificielle pour développer des solutions de pointe. C'est un reportage d'Isaac Kaledzi, depuis Accra. Le récit est d'Eric Manirakiza.
MinoHealth AI Labs, un groupe technologique dirigé par de jeunes innovateurs, est un pionnier de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Ils ont développé un outil qui permet de diagnostiquer rapidement et avec précision des affections, contribuant ainsi à pallier le manque de personnel de santé dans le pays. Dans ce centre de dépistage de Koforidua, une ville de la région orientale du Ghana, des professionnels de la santé sont occupés à examiner des images radiographiques numérisées de patients. Ils sont assistés par une générative AI, un outil conçu avec une intelligence artificielle qui détecte et diagnostique rapidement diverses pathologies en analysant les images scannées téléchargées. La plateforme peut générer un rapport médical, prescrire des médicaments et recommander des procédures de traitement, ce qui allège la charge de travail des radiologues comme Daniel Wima.
L'une des choses que j'aime le plus dans l'IA, c'est qu'elle nous permet de poser des questions complémentaires, même lorsque vous avez posé votre première question.
Monsieur Guima est également impressionné par la capacité de l'outil à analyser deux images différentes et à fournir un diagnostic en même temps.
La plateforme est capable de faire la différence entre deux images placées côte à côte, l'une à gauche et l'autre à droite, et de fournir des informations complètes à ce sujet. C'est un aspect fantastique de l'IA que j'apprécie.
Darlington Akogo est le concepteur de cet outil d'intelligence artificielle. Son équipe de MinoHealth AI Labs l'a d'abord développé il y a 2 ans, puis l'a remanié cette année pour le rendre plus efficace. Le Ghana compte plus de 90 radiologues pour une population de plus de 30 millions d'habitants, selon l'Association ghanéenne des radiologues. Face à la pénurie de personnel de santé dans de nombreux hôpitaux ghanéens, M. Akogo souhaite que son outil d'IA comble les lacunes.
L'objectif est que tout le monde puisse accéder à des soins de santé de qualité où qu'il se trouve. Alors, donnons plus de moyens à nos travailleurs de la santé en utilisant les solutions d'IA que nous avons développées.
Pour l'instant, grâce à la puissance de la technologie et à ses résultats prometteurs, les patients continuent de se rendre dans des établissements comme celui-ci en sachant qu'ils recevront un diagnostic précis et rapide de leur maladie, ce qui leur permettra de commencer leur traitement sans tarder.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM, 91.5 FM, Bujumbura, Raga FM, 90.5 Kisangani, Sabou FM, 96.6, Kindia, Guinée, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Lyon à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaimard. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. We'll be right back.